Bien heureux de vous retrouver pour ce temps de réflexion sur cette figure extraordinaire qui est Benoît XVI. Alors, on a été très gênés, vous savez, parce qu'après le cher Jean-Paul II, tant d'années, un style tellement marqué quand même, hein, la personnalité, Dieu passe par les personnalités, s'il se sert de lui comme pour être son vicaire sur la terre, il ne nie pas la personnalité propre de la personne. Saint Paul n'écrit pas comme Saint Jean et Saint Matthieu pas comme Saint Luc, hein. On le voit bien, Dieu respecte profondément les personnes, le ton avec lequel ils vont jouer, la partition de l'amour, la responsabilité, assumer la responsabilité qui est la leur. Mais c'est toujours le même Esprit Saint qui travaille à travers les uns et les autres. Alors on s'est dit, mais comment va-t-il reprendre le flambeau? Qu'est-ce qui va se passer? On parle toujours des papes de transition, quand il y a des papes très, très forts qui ont duré assez longtemps, toujours des papes de transition, mais ceux qui changent toujours l'Église. Donc ils sont vraiment des papes de transition, ils font passer l'Église d'une phase à l'autre de son histoire. On a dit aussi que Jean-Paul II était le geste, Benoît XVI était la parole. Il a quand même écrit 14 encycliques, Jean-Paul II, voyez-vous, c'est plusieurs mètres de bibliothèque, donc c'est aussi la parole. Hein. Et Benoît XVI, il a aussi le geste, quand on le voit avec sa douceur, son humilité, sa délicatesse, on se dit qu'il parle beaucoup plus par ce qu'il est encore que par ce qu'il dit à plusieurs reprises. Et c'est ce qui a bouleversé la France. Quand on voyait arriver le Panzer cardinal, vous voyez, le cardinal tank, et puis... On a vu cet homme tout doux et tout humble se promener là, sourire à tout le monde, toucher la main. Quand un père lui dit « Mais mon enfant est malade », il traverse le cordon de sécurité, il va chercher l'enfant, il l'embrasse. Un jour sur la place Saint-Pierre à Rome, il y a quelqu'un qui était là, une personne handicapée qui était là. Puis il dit « Attendez », alors ils appellent le pape vient vers elle. Et puis tout d'un coup, on voit le bonhomme faire un numéro de téléphone, passer son portable au pape, qui cause avec une personne au téléphone, et qui lui rend le téléphone au bout d'un moment. On se dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Et alors, il dit « Mais c'était une religieuse qui était malade, elle a le cancer en phase terminale, et elle avait besoin d'un encouragement du pape. » Alors je l'ai encouragé par un autre malade qui est sur chaise roulante. Vous voyez, ces gestes-là parlent plus qu'un tas d'autres choses. Hein. Alors, en quoi Benoît XVI est-il peut-être un prophète pour notre temps, dans la spécificité? Je crois que c'est une des choses, vous savez, il fallait quand même une sacrée personnalité pour réussir à prendre le flambeau après Jean-Paul II sans être dans l'imitation tout en gardant la continuité. Hein. C'était quand même une tâche qui exigeait une personnalité profondément construite, une sainteté déjà bien élevée. Alors, notre cher cardinal Ratzinger a su assumer ça. Il naît donc, vous le savez, en 1927, en Allemagne, baptisé le jour même. Son père, officier de gendarmerie, une vieille famille d'agriculteurs. Sa mère, fille d'artisans très modestes, elle fera les restaurants, cuisinière dans les hôtels avant de se marier. Donc une famille toute simple, comme ça. Et puis, il y a ce traumatisme de la guerre qui arrive. Cette violence, cette haine, ce déchaînement d'horreur. Je vous citerai un petit exemple tout à l'heure qu'il nous donne. Mais... quelque chose qui le marquera beaucoup, c'est le fait d'être réquisitionné à un moment donné pour faire partie de certains groupes de travail et ensuite d'être arrêté aussi par les Américains, de vivre quand même une certaine détention pendant quelques mois avec notre ration quotidienne se composait d'une mouche de soupe et d'un peu de pain. Quelques heureux avaient emporté une tente et lorsque la pluie survint après une longue période de beau temps, des groupes se formèrent autour de chaque tente, cherchant un abri de fortune face aux intempéries. Nous étions environ 50 000 prisonniers sur un terrain vague. Et il est resté comme ça 2 mois et demi, 3 mois à peu près. Ça marque quand même son homme, hein, dans ces circonstances-là, même si ce sont les libérateurs qui les détiennent prisonniers et qu'on est au terme de la guerre. Et, ça reste quand même quelque chose d'assez marqué, puisque comme il avait un uniforme, eh bien, il a dû remettre son uniforme et se retrouver là. Et on verra que ce sera quelque chose qui le marquera. Cette étape-là sera... voyez-vous, on vit avec ce que Dieu nous a donné, comment Dieu nous a façonné, son origine, son humilité, cette expérience de la guerre. Pour Jean-Paul II, ce sera les épreuves familiales qui l'ont marqué depuis son enfance. Ce sera la guerre aussi, ce sera le communisme par la suite, des traumatismes violents et en même temps des occasions extraordinaires pour grandir. Donc... cet homme viendra là, il y aura une épreuve terrible pour Benoît XVI, ça va être terrible. Il fait sa thèse, il bosse pour sa thèse à fond, sa thèse d'habilitation. Il est extrêmement content du travail qu'il a fait, une thèse sur Saint Bonaventure et la théologie de l'histoire. Et puis un des professeurs trouve cette thèse beaucoup trop progressiste. Il dit: on va refuser votre thèse. Cataclysme, c'est d'abord pour des raisons économiques.